Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, il y a 2 jours des fêtes de la Nativité. Avant de célébrer Noël, j'ai plaisir à recevoir le professeur Rachid Lazraq. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir pour nous parler de cette grande figure de Jésus, le Christ, le Messie, du point de vue de la tradition religieuse islamique. Et vous avez consacré à ce sujet une monographie. Vous dites, pour faire connaître le Christ, d'abord pour les musulmans eux-mêmes qui ne le connaissent pas suffisamment, mais aussi pour que les chrétiens sachent quelle est la place de Jésus dans le Coran. Certes, le sujet est un sujet désormais classique, mais il est toujours renouvelable et il est toujours bon de le connaître. Et c'est pour ça que nous vous en savons gré. Donc, pourquoi vous-même, qui êtes juriste, fiscaliste, professeur des universités, certes passionné de religion et d'histoire des religions, mais êtes-vous vous-même intéressé à la figure du Christ ?
Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un grand passionné de l'histoire des religions. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours été fasciné et intrigué par le personnage de Jésus. C'est un personnage hors du commun, qui, c'est-à-dire que rien ne semble être ordinaire chez Jésus, les conditions de sa naissance, de sa vie, de sa mort, de son identité, de son message. Et, si vous voulez, j'étais intrigué, fasciné. Et je voulais justement aller au fond des choses. Il y a également un fait personnel, c'est que j'ai toujours été impressionné par la place de Jésus et de sa mère Marie dans le Coran. On citera peut-être tout à l'heure un certain nombre de chiffres concernant le nombre de fois citées dans le Coran.
Alors là, vous parlez de Jésus.
De Jésus et de Marie.
Les deux.
Les deux.
C'est vrai que l'approche quantitative ou quantifiée a une certaine pertinence. Ça n'est pas importante en soi, parce qu'on peut avoir un qui n'est cité qu'une fois. Mais c'est vrai qu'il y a
35 fois.
35 fois pour Jésus, 27 sous l'appellation Jésus et sous l'appellation Messie 8 fois.
Exactement.
Et pour Marie, 34 fois.
Et pour Marie, 34 fois, c'est-à-dire plus de fois dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament.
Et alors, vous pensez que le fait de les citer nommément et de leur donner ce nombre d'occurrences et d'apparitions montre l'importance?
C'est un aspect, parce que si on compare avec le prophète Mohammed, il est cité dans le Coran, bien sûr qu'il est cité en tant que prophète, que messager de Dieu, il est cité 4 fois.
Nommément 4 fois.
Mais il y a autre chose, si vous voulez. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire la place de Jésus et de Marie se situe en plus, si vous voulez, de ce nombre quantitatif de Jésus et de Marie. Alors, les raisons peut-être objectives sur lesquelles je voudrais insister, c'est peut-être aussi la méconnaissance de la majorité des penseurs du monde occidental concernant aussi bien le Coran que de la place de Jésus et de Marie dans le Coran. Et la même chose, malheureusement, même au niveau des musulmans, très peu de musulmans connaissent la véritable histoire et le véritable statut de Jésus tel qu'elle est racontée dans les évangiles que dans le Coran.
Avant de poursuivre à la suite de l'Azra, comment expliquez-vous cela? Il y a eu, à travers l'histoire, même si vous le déplorez et qu'il y en est très peu, mais il y a, à l'époque on parlait d'orientalistes, maintenant on parle davantage d'islamologues, il y a ceux qui s'intéressent au Coran, peut-être pas en nombre suffisant, il y a parmi les occidentaux ceux qui ne connaissent pas véritablement la place de Jésus ou de Marie dans le Coran, mais il existe quelques-uns. Mais comment expliquez-vous qu'on ait très peu de biblistes, d'hébraïsants, de spécialistes de la patristique, de l'histoire des pères de l'Église, ou même des ceux qui peuvent s'intéresser à la christologie dans sa forme connue à travers l'histoire parmi les musulmans. Vous, vous en êtes intéressé, vous êtes un passionné, et c'est pour ça que vous venez nous en parler, mais comment expliquez-vous cela?
Ben justement, c'est peut-être l'une des énigmes. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur Jésus, notamment Jésus, si vous voulez, par rapport au soufisme, Jésus par rapport à un certain nombre d'écrits concernant le personnage, mais malheureusement, ça reste quand même assez limité. Et c'est dommage.
Très en deçà de ce qui est requis par rapport à la place qu'occupe
exactement
la figure de Jésus et de sa mère dans le Coran.
Exactement, exactement. C'est véritablement en deçà de ce que de ce que ça aurait pu être justement dans la réalité.
Alors, et vous-même y êtes intéressé, et finalement c'est au-delà de l'intérêt pour la figure du Christ, c'est aussi pour jeter, vous m'aviez dit en préparant cette émission, des liens d'amitié, des ponts de rencontre entre les chrétiens et les musulmans, d'une manière générale.
Oui, parfaitement. C'est-à-dire que lorsqu'on on étudie un petit peu la place de Jésus dans le Coran, on est frappé par un certain nombre de choses. Alors, en plus, disons, de l'aspect quantitatif, il y a un certain nombre de réponses que le Coran, justement, donne sur Jésus et sur Marie et qui vont au-delà de ce qu'on trouve dans les évangiles. Que ça soit au niveau, par exemple, de sa naissance miraculeuse, que ça soit au niveau de son identité, au niveau de son message, etc. En plus de ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'on trouve pas dans les évangiles, qu'on trouve dans le Coran, et que justement des faits, des découvertes récentes qui sont venues confirmer ce que dit justement le Coran de Jésus et de sa mère Marie.
Alors quels sont ces faits, s'il vous plaît, Rachid Lazala?
Bah, vous savez,
c'est les manuscrits de Qumran.
C'est le manuscrit de Qumran. Il y a également l'évangile de Thomas. Il y a également l'évangile de Barnabé. Il y a un certain nombre de. Il y a également ce qu'on appelle l'évangile perdu.
Oui, pour l'évangile de Thomas et l'évangile de Barnabé, dès lors qu'il ne fait pas partie des évangiles canoniques et reconnus par l'Église, les musulmans peuvent dire ce qu'ils souhaitent là-dessus. Mais ça n'est pas reconnu par la doxa droite de l'Église catholique.
C'est sûr qu'il n'y a que les évangiles canoniques qui sont reconnus, mais les découvertes, si vous voulez, qui sont intervenues justement ces derniers temps, viennent justement confirmer un certain nombre d'événements extrêmement importants concernant justement l'identité, la crucifixion par exemple de Jésus, ou encore son identité, et bien sûr, les chrétiens ne sont pas obligés de croire en ces évangiles qui n'ont pas été retenus, mais ces évangiles apportent un éclairage en ce qui concerne justement ces découvertes.
L'approche de l'historien, et je pense que dans l'Église, on n'est pas frileux quant à une approche historico-critique, et de voir indépendamment des textes ou des références scripturaires sacrées. Alors, si nous revenons uniquement à l'approche coranique de la figure du Christ, comment les choses sont-elles présentées notamment en ce qui concerne sa naissance et sa filiation, son ascendance.
Oui, alors si on prend par exemple justement son ascendance, si on prend par exemple l'évangile de Luc et de Matthieu, il y a une descendance, si vous voulez, tout en reconnaissant justement sa naissance miraculeuse, on parle d'une descendance mâle, c'est-à-dire qu'il descend de David.
Il est héritier de la maison de David.
Voilà. Alors que le Coran, il cite Issa ibn Maryam. Jamais il n'a parlé de descendance masculine, mais une descendance, c'est-à-dire féminine, c'est-à-dire Issa ibn Maryam.
On va dire Jésus, fils de Marie.
Fils de Marie.
De par sa naissance miraculeuse, donc la filiation est plutôt du côté de la mère.
De la mère.
Mais ça, comment les musulmans, à supposer que je puisse utiliser l'article « les », puissent percevoir la naissance miraculeuse, elle fait partie de leur... C'est un article de foi en ce qui les concerne, ça fait partie des dogmes islamiques.
Ah, parfaitement. C'est-à-dire ne pas reconnaître cette naissance miraculeuse constitue une véritable hérésie pour les musulmans.
Bien sûr, un non-musulman, si on fait de l'anthropologie du fait religieux, commence à se poser de sérieuses questions sur ce genre de naissance. On a même osé, dès le 19e siècle et après, avec le scientisme triomphant, parler de parthénogenèse. Il faut peut-être laisser ça à une lecture confessante et à la foi, et ne pas entrer dans les détails d'une naissance miraculeuse dans le sein virginal de Marie.
C'est ça.
Bien, Rachid Lazraq et la suite.
Bah, vous savez, la suite, donc, si vous voulez, Jésus étant dans le Coran, comme étant Kalimatullah, comme étant Ruhullah.
Alors, on va traduire pour nos amis auditeurs. Donc
c'est l'Esprit de Dieu.
Et
c'est la
de
parole
Dieu,
de Dieu.
Ou verbe
c'est l'Esprit de Dieu. Dieu lui a donné le Beyinet, c'est-à-dire l'épreuve. Il est assisté de l'Esprit Saint. Il est cité au nombre des plus proches et des intimes de Dieu. Il est qualifié de waji, c'est-à-dire de l'homme digne de considération.
Éminent et digne de prestance.
Voilà. Voyez, effectivement. Donc, si vous voulez, c'est l'un des personnages qui est le plus vénéré dans l'islam et dans le Coran.
Rachid Lazraq, certes, il est vénéré, il est proche du prophète de l'islam, parce que dans un hadith, dans un aphorisme, dans une parole du prophète qui dit « Les prophètes constitue une confraternité et je suis très proche de Jésus de par la proximité dans le temps, parce que entre Jésus et moi, il n'y a pas eu de prophète.
C'est un petit peu l'un des éléments que je développe dans ce livre, c'est-à-dire que les prophètes, il y a une succession de prophètes finalement qui sont venus dans un prolongement depuis Abraham jusqu'au prophète Mohammed. Et si vous voulez, c'est un monothéisme qui a existé depuis justement Abraham et qui finalement a constitué ce prolongement et ce monothéisme justement est le hadith que vous citez effectivement est un hadith qui est où le prophète dit je suis le plus proche justement de Jésus. Et nous avons la même religion. Nous avons la même religion.
Qui est le fait de se remettre à Dieu,
de reconnaître son unicité et la soumission à lui.
Oui. Ce qui n'est pas tout à fait le sens du mot islam, parce que ce n'est pas une soumission résignée et maladive, c'est une allégeance libre voulue au Dieu un. Mais il y a aussi la place de Marie. Il y a tout un culte marial. Et Marie elle-même est née, selon la description qu'en fait le Coran, et notamment dans la sourate 19, qui porte son nom, l'unique femme citée nommément dans le Coran, et comment déjà au niveau de sa mère les choses se présentent-elles dans l'écrit coranique?
Alors justement, concernant Marie, on est étonné de savoir que ce que dit justement le Coran de Marie est au-delà de ce que disent les évangiles justement de Marie. Et là, je cite Mourdia et Jérôme Prieur. Si dans les évangiles, Marie a à peine un petit rôle, si on en mettait bout à bout tous les passages qui la mentionnent, on obtiendrait au mieux une demi-page, plus vraisemblablement quelques lignes. Ce qui n'est pas le cas du Coran, qui la cite souvent et la qualifie de préférée de Dieu par rapport à toutes les femmes de l'univers. Oui, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que 1000 ans, ou plus de 1000 ans, avant que l'Église déclare Marie comme l'Immaculée Conception, le Coran la cite comme étant exempte de tout péché. En plus, elle est qualifiée dans le Coran de Siddiqa, la véridique. Et comme vous l'avez dit, c'est la seule femme dans le Coran qui est citée par son nom. Aucune femme n'est citée par son nom dans le Coran.
Il y a aussi ce hadith, encore une fois, une maxime ou une parole du prophète, où il parle à sa fille Fatima. Il lui dit qu'il y a 4 femmes qui sont proches de Dieu. Il parle de Marie, de Khadija, de Fatima, sa fille elle-même. Et puis, la quatrième va me revenir.
C'est la femme du pharaon.
La femme du pharaon, Assia.
Oui.
Même si elle n'était pas citée comme ça.
Exactement.
Et là, ça montre la présence féminine dans le Coran, sans citer les autres femmes. Mais je ne parle pas de Marie, je ne parle pas de Fatima ou de Khadija, je parle des autres femmes qui, elles, sont citées par rapport à leurs époux, par rapport à leur rôle. Il n'y a que Marie qui est citée intrinsèquement.
Parfaitement. Et ça me rappelle justement un autre hadith, où justement, le jour où le prophète était sur son lit de mort, et Fatima est rentrée pour le saluer, elle est ressortie, et elle pleurait.
Et puis elle a souri.
Et puis elle a souri. Et sa belle-mère, justement, Aïcha, qui lui dit « Pourquoi tu as pleuré ?» Je lui dis « Parce que le prophète m'a annoncé qu'il allait mourir. Mais j'ai souri parce que il m'a dit que je serai la cheptaine dans l'au-delà après Marie, fille d'Amran. »
Oui, et que j'allais le... rejoindre très vite.
Et que j'allais le rejoindre très vite.
Ce qui explique son sourire.
Thank you.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons de Jésus comme une grande figure du Coran avec le professeur Rachid Lazraq, qui est passionné d'histoire des religions, de formation juriste et professeur des universités. Rachid Lazraq, maintenant que nous avons parlé de cette naissance miraculeuse attestée dans le Coran, de la place de Marie, il y a aussi d'autres miracles relatifs à Jésus, et à commencer par le fait d'avoir parlé très tôt, et même au berceau, ce qui n'est pas donné aux humains naturellement.
Oui, alors d'abord, il faut préciser que le Coran reconnaît pratiquement tous les miracles rapportés par les évangiles. Il reconnaît les miracles qui ont été faits par Jésus, mais il en ajoute un certain nombre qui n'existent pas dans les évangiles, et justement ce miracle où le bébé Jésus, le jour où Marie l'a amené bébé, et les gens commençaient à se poser des questions concernant justement cette naissance exceptionnelle.
Extraordinaire. Au sens premier du terme.
Voilà. Et justement, et c'est Jésus qui, bébé, s'est déclaré être l'envoyé de Dieu, le bébé qui va être prophète, et qui sera pleine de bonté avec sa mère, etc. Il y a tout un miracle.
C'est lorsque Marie, parce que dans le récit coranique, c'est qu'elle se retrouve plutôt dans le désert et qu'elle doit secouer le tronc du palmier pour qu'elle puisse s'alimenter en prenant quelques dattes, et elle revient en portant le nouveau-né. Certains lui posent la question, mais qu'as-tu fait là, Marie? Et elle montre le nouveau-né, et les gens s'étonnent comment vont-ils poser des questions à un bébé, et c'est là où le miracle se produit, puisqu'il parle. Il dit que Dieu m'a ordonné de la bonté envers ma mère, paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je serai, où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant.
Exactement, voilà ce qu'il dit. Je suis en vérité le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que j'y vivrai, et la bonté envers ma mère. Il m'a fait ni violent ni malheureux, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Voilà ce que disait justement Jésus.
Oui, le Coran met dans la bouche de Jésus ce passage, et surtout ce qui finit bien par « paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant », puisque en langue arabe, « ubatu hayya », je serai ressuscité vivant. Et là, c'était une manière de, si vous me pardonnez le terme prosaïque, de clouer le bec aux détracteurs de Marie, qui l'ont calomnié et qu'elle n'a jamais été une femme dissolue.
Exactement. C'est-à-dire que le Coran a amené, ou du moins s'est prononcé sur justement les calomnies qui étaient proférées contre Marie, notamment par les païens à l'époque, et qui disaient que Marie a eu une relation illégitime avec un certain soldat romain qui s'appelait Pantera. Et le Coran est venu pour dire justement, et c'est une énorme calomnie, et que la naissance de Jésus est une naissance tout à fait, disons, en dehors de toute relation illégitime.
Oui, ce Romain ou ce légionnaire Pantera, finalement, n'est qu'un mensonge.
D'après un historien américain, il dit que Pantera
a existé. Vous parlez de Talbot ?
C'est pas Talbot, c'est... J'ai oublié son nom.
Bon, un historien américain.
Un historien américain, archéologue, qui a fait beaucoup de recherches et qui a apporté la preuve. Comme quoi ce soldat romain a existé du temps de Marie et qu'aujourd'hui, il est enterré dans un cimetière dans une ville allemande.
Dans la Germanie de l'époque.
Dans la Germanie de l'époque, parfaitement.
Bien, donc le Coran...
C'est Tabor.
Ah, c'est Tabor.
Oui.
C'est pour ça que j'ai confondu avec Talbot, mais ce n'est pas ça l'important.
C'est Tabor.
Il se trouve que finalement, il y a cette réponse qui est faite aux détracteurs de Marie. On a très peu de connaissances sur Jésus quant à son enfance, tout comme globalement dans les évangiles, sauf un passage relatif lorsqu'il avait 12 ans et qu'il se serait perdu à Jérusalem.
Discutable. C'est discutable.
Mais là, le Coran n'en fait pas mention.
Du tout. C'est-à-dire que ce passage dont vous parlez, c'est un passage qui a été rapporté par Luc et dont les historiens doutent énormément. Ce qui fait que l'une des énigmes et des particularités de Jésus, c'est qu'on ne sait pratiquement rien de lui depuis sa naissance, depuis pratiquement le huitième jour, le jour où il a été au temple, jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire jusqu'au jour où il a décidé justement de commencer son prêche, suite à sa rencontre avec Jean-Baptiste.
Lequel Jean-Baptiste est tout aussi présent dans le Coran et les relations entre Jésus et Jean-Baptiste sont bien présentées dans la tradition islamique.
Parfaitement, parfaitement. D'abord, ce sont la mère de Marie et la mère de Jean-Baptiste sont cousines. Ensuite, le Coran apporte énormément d'informations sur le prophète Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, appelé Yahya dans le Coran, et qui ont connu un certain nombre de particularités. Par exemple, la femme de Zacharie était stérile, et il a fallu un miracle pour qu'elle puisse tomber enceinte de Jean-Baptiste. Et le Coran dit de Jean-Baptiste que c'était un prophète et un messager de Dieu.
C'est là où, avec le baptême, que Jésus demande. Il y a aussi une énigme, puisque le baptême est censé racheter les péchés. Or, Jésus n'en avait pas. Pourquoi a-t-il demandé, en insistant auprès de Jean-Baptiste, de le baptiser ?
Ben oui, ça c'est l'une des, si vous voulez, l'une des énigmes, ou c'est l'un des sujets qui est le plus controversé concernant justement la relation de Jésus avec Jean-Baptiste. D'abord, Jésus a insisté, c'est-à-dire que parmi les choses qu'il a faites au début de son prêche, c'est d'aller à la rencontre de Jean-Baptiste sur le Jourdain et a demandé à être baptisé. Et Jean-Baptiste a refusé, dans un premier temps, de baptiser Jésus pour dire qu'il n'avait pas justement de péché à se faire pardonner. Et c'est sur l'insistance justement de Jésus qu'il a été baptisé et ça crée une petite polémique. Comment Jésus, qui n'avait pas de péché, allait chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser.
Et quelle est l'explication, la moralité ou l'idée de ça, c'est peut-être quelque chose d'inaugural pour commencer son apostolat ou c'est une forme d'humilité ou c'est le fait de reconnaître aussi la mission de Jean parce que les choses ne doivent pas se placer au niveau de la prééminence de l'un sur l'autre. La prééminence est pour Jésus.
Oui, il y a probablement d'abord une sorte d'humilité, mais également une sorte de reconnaissance de l'importance de Jean-Baptiste. Parce que ce prophète, qui n'a laissé ni écrit ni message, c'était quelqu'un de très austère, qui était justement qui baptisé qui, dans le Jourdain, et qui finalement est le jour où Jean-Baptiste a été, parce qu'il a été emprisonné et il a été décapité.
On est, si les dates sont bonnes, aux alentours de 27 de notre ère, mais...
Oui, plus ou moins.
Plus ou moins.
Plus ou moins. Plus ou moins.
C'est que Jésus a vécu avant Jésus, si Jésus on revient à la date.
Oui, parfaitement. Parfaitement. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait un prolongement du message de Jean-Baptiste qui a été relayé par Jésus. Parce que celui qui a parlé du royaume de Dieu, c'était d'abord Jean-Baptiste. Et c'est Jésus qui a repris justement cette notion de royaume de Dieu avec une redistribution des pouvoirs, etc.
Bien, revenons à la christologie coranique cette fois-ci, enfin, du point de vue de l'écrit coranique. On a le vocabulaire connu qui a été interjeté dans le Saint Virginal de Marie, qui a été fortifié par l'Esprit Saint et que lui-même donc est un prophète messager, c'est-à-dire qu'il a il est porteur d'un message, d'une heureuse nouvelle, d'une bonne nouvelle, de l'évangile au singulier. Donc ça montre la place prééminente de Jésus dans le Coran.
Oui, ouais, justement, c'est ce qui nous ramène à parler un petit peu de l'identité de Jésus. Alors, beaucoup de questions se sont posées justement concernant son identité, surtout de la part des historiens qui ont essayé un petit peu de s'écarter de tout ce qui est théologique. Et le Coran est venu pour dire que Jésus est un prophète de Dieu, c'est un messager de Dieu et que c'est le Messie attendu par le peuple d'Israël. Et là, si vous voulez, c'est l'une des réponses un petit peu les plus intéressantes pour les chrétiens, parce que les Juifs, de toute façon, ne reconnaissent pas la qualité ou l'identité prophétique de Jésus, ni le fait que ça soit le Messie. Pour le Coran, c'est un prophète, c'est un messager de Dieu, et c'est le Messie attendu par le peuple d'Israël.
Le Messie, parce que ça renvoie à la notion de l'onction, puisque les rois, les rois d'Israël, devaient oindre leurs cheveux, passer de l'huile sur leurs cheveux. C'est pour ça que Mashiach en arabe, Mashiach en hébreu, ou le Messie, le Christ en grec, renvoie à cette notion d'onction, et donc d'onction divine. Alors, si je comprends bien, Rachid Lazar, c'est que l'écrit coranique, les réponses coraniques sont faites aux historiens ou à ceux qui n'ont pas reconnu la mission prophétique de Jésus entre sa prédication, son apostolat et la venue de Mohammed, le prophète de l'islam. Parce que les réponses ne peuvent pas être pour ceux de maintenant.
C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de démontrer dans ce livre, c'est que il y a des interrogations qui concernent Jésus, pratiquement à tous les niveaux. Au niveau de sa naissance, de la vie très courte, de son message, de son identité, etc. Et ces interrogations qui ont été amplifiées justement avec l'évolution un petit peu des choses et du fait que on essaie de distinguer entre le théologique de l'historien. Pour les historiens aujourd'hui, et c'est ce qui se prévaut, c'est il faut laisser de côté tout ce qui est théologique. Tout ce qui est théologique et que les évangélistes qui ont écrit les évangiles n'avaient aucune notion de l'histoire. Parce que c'est quelque chose qui est moderne, etc. Donc, on se pose un certain nombre de questions concernant Jésus. Et l'intérêt, justement, c'est que le Coran est venu pour apporter un certain nombre de réponses à ces interrogations.
Oui, mais la question vaut aussi pour le Coran, de la part de ces mêmes historiens. Donc,
c'est sûr.
Cela, ce que vous dites, c'est qu'il faut séparer le théologique de l'historique, mais les historiens continuent à faire leur travail d'investigation, de recherche, etc. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie du fait religieux. En ce qui concerne les lectures confessantes et les approches théologiques, et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, là nous sommes dans un cadre de foi et de lecture confessante.
Certainement, certainement. Là on est d'accord. Dans tous les cas, de toute façon, on peut croire comme on peut ne pas croire. Ça, c'est, oui. C'est très personnel. Mais ceci dit, il y a un certain nombre, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments qui sont que le Coran a amenés et qui sont de plus en plus reconnus par les événements qui sont intervenus par la suite, notamment par les découvertes de textes qui sont intervenus ces derniers temps.
Et alors, que répondez-vous à ceux qui disent l'avènement de la révélation coranique s'est fait dans un moment où, et même un lieu où il y avait des sectes, moi, ne pas prendre avec la charge émotionnelle de nos jours chrétiennes, et donc les réponses devaient se faire aussi aux Docètes, aux Jacobites, aux Mariamites, aux Eutychidiens, aux Colliridiens, à ceux qui étaient, les chrétiens qui étaient en contact avec le prophète Mohammed.
Oui, ça, c'est l'un des, si vous voulez, effectivement, c'est l'une des objections concernant l'avènement du Coran et le fait que peut-être que le prophète Mohammed s'instruisait auprès justement de ces chrétiens qui vivaient en Arabie. Maintenant, le Coran le dit. Le Coran le dit dans un verset où il dit « Nous savons que justement les gens, voilà ce qu'ils disent concernant justement le fait que le prophète Mohammed était en contact avec ces chrétiens. » Donc le Coran le dit. Deuxièmement, il y a un certain nombre de choses qu'on ne trouve pas dans les évangiles, ni dans les évangiles, si vous voulez, qui ont été retenus, même dans les autres évangiles qui n'ont pas été retenus. Et puis, comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a un certain nombre de découvertes de textes qui sont venus confirmer ce que dit le Coran, et qui n'ont rien à voir avec le Coran. Je parlais justement de l'évangile de Thomas, de l'évangile perdu, de celui de Barnabé, etc.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Rachid Lazalak. Nous parlons de Jésus, de cette grande figure dans le Coran. Et l'intérêt avec vous, Rachid Lazalak, c'est de dire que la mission de Jésus, son apostolat, son enseignement, indépendamment des considérations dogmatiques et les points doctrinaux, peuvent et doivent être des liens, des traits d'union et des ponts de rencontre entre les croyants, et notamment les croyants chrétiens et musulmans.
Parfaitement, parfaitement. C'est-à-dire que si les penseurs, ou du moins si les chrétiens lisait de façon un peu plus objective, justement, le Coran. Et de l'autre côté, si les musulmans s'intéressaient un petit peu à l'histoire, mais de façon objective, et au statut exceptionnel de Jésus, là, on aurait un certain... Ça permettrait peut-être de réduire ces incompréhensions, ces malentendus qui existent aujourd'hui entre chrétiens et musulmans. On ramène l'islam à certaines pratiques, élémentaires, et on oublie peut-être l'essentiel. Jésus, en tant que figure biblique du Coran, est un élément qui peut être un élément de rapprochement des deux communautés.
Encore faut-il ne pas trop s'apesantir sur les différences ou les divergences quant à sa passion ou sa crucifixion, parce que ça a toujours été aussi objet de polémique entre musulmans et chrétiens par rapport au fait d'être élevé auprès du Très-Haut vivant et qui n'a pas été crucifié, puisque le Coran dit qu'il leur paraissait ainsi, il leur a semblé qu'il était crucifié.
Moi, j'ai dit qu'à part à part deux aspects, il y a la crucifixion. La crucifixion et le caractère divin de Jésus. À part ces deux aspects, qui sont quand même des aspects importants, mais pour le reste, le Coran est venu conforter justement les chrétiens dans la plupart des convictions qu'ils ont de Jésus et de sa mère Marie.
C'est facile, si j'ose dire, dans une vision séquentielle de la révélation, celui qui parle le dernier, indépendamment des questions de textes sacrés, peut prétendre dire la vérité, corriger ce qui précède, rectifier, accomplir, donner un blanc-seing ou pas. Donc, et toujours en autoréférence. Ma question, c'est indépendamment des appréciations, surtout sur ces deux points, qui sont des points fondamentaux, le caractère divin de Jésus et surtout sa crucifixion, il y a lieu de voir plutôt son enseignement, la bonté qui est venue apporter, l'amour pour autrui, et ça doit réunir musulmans et chrétiens, et par-delà la famille abrahamique, et par-delà l'ensemble de l'humanité.
C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que finalement, la notion d'islam, de musulman, est une notion qui n'est pas liée uniquement à la religion musulmane. Vous savez, dans le Coran, vous avez un certain nombre de références à la notion de musulman ou musulmoun qui sont antérieures à la naissance de la religion musulmane. Je prends un certain nombre de versets. Lorsque Israël, Jacob réunit ses enfants, il leur a dit quelle religion vous allez adopter. Ben, c'est la religion de l'islam. Quand vous prenez, par exemple, même la reine de Saba, lorsqu'elle se trouve devant Salomon, elle dit, on voudrait être
des
musulmans, etc.
Et Abraham, qui est le premier musulman. Alors tout de suite, on va le dire à nos amis auditeurs qu'il ne s'agit pas de se réapproprier après coup la foi des juifs ou des chrétiens, c'est le sens étymologique du mot islam qui est le fait de se remettre à Dieu.
De se remettre à Dieu et de reconnaître son unicité. Je pense que c'est la chose la plus importante. les trois grandes religions monothéistes se fondent en un seul fondement, c'est l'unicité de Dieu. Et à partir de là, l'islam n'est que le prolongement un petit peu des autres religions monothéistes, le christianisme et le judaïsme.
Oui, parce que l'islam ne se veut pas comme une religion nouvelle, mais plutôt une religion, du point de vue de sa cohérence propre, comme une religion continuatrice,
voilà, ou propagatrice. Prolongement, c'est un prolongement.
Voilà, et la révélation coranique est propagatrice des messages de la Torah et de l'Évangile.
Parfaitement.
Alors, on peut laisser aux théologiens, aux académiciens, à ceux qui sont rompus à ces choses et à ces connaissances, le débat sur la passion, la crucifixion du Christ, le caractère divin ou pas de Jésus. Ça, peut-être par prudence et par sagesse, il vaut mieux que ça soit, que ce ne soit pas l'objet de débat pour le commun des mortels ou le commun des croyants.
Exactement. Exactement. Il faut peut-être se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Or, ce qui nous divise est peut-être important parce que c'est quand même la crucifixion ou le caractère divin de Jésus, mais ce qui nous rassemble est encore plus important. C'est cette religion continuatrice, justement, des autres religions monothéistes.
Oui, Rachid Lazar, ce qui rassemble les croyants est beaucoup plus important que ce qui les divise, certes. Et vous l'avez si bien dit, ce qui divise est tout aussi fondamental parce que c'est le fondement même de la foi des uns et des autres, donc il faut l'accepter dans le respect et avec sagesse, et en faire le lieu de la médiation, de la rencontre, de l'échange et de la compréhension.
Parfaitement.
Après la présentation coranique, finalement, de la passion du Christ, c'est quoi? C'est l'idée derrière, c'est que Dieu ne laisse pas dans la déréliction la plus totale ses prophètes, ses bien-aimés, donc il n'y a pas eu de crucifixion véritable, c'était une substitution.
Parfaitement. C'est-à-dire que le Coran dit وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ إِنَّمَا شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas crucifié,
ils ne l'ont pas tué,
mais c'est un faux semblant, si vous voulez. Ben, pour la simple raison que pour le Coran et ou pour disons la tradition musulmane, il était impensable que Dieu laisse tomber son prophète, le laisse se faire crucifier comme n'importe quel. Jésus est tellement vénéré par le Coran. C'est un proche de Dieu, c'est un intime de Dieu. C'est un homme hors du commun. Et on ne peut pas imaginer qu'il soit crucifié, justement, alors qu'il était le plus proche de Dieu. Voilà un petit peu la conception de la tradition musulmane.
Oui, mais d'un autre côté, et elle est tout à fait recevable et compréhensible, c'est qu'il ne peut pas y avoir victoire sur la mort par l'amour, et donc résurrection s'il n'y a pas eu véritablement mort. Alors, j'ai lu dans votre ouvrage que vous présentez les choses avec les différents conciles, depuis celui de 49 à Jérusalem, passant par celui de Nicée en 325 et en allant jusqu'à celui de 787 d'Éphèse pour Marie. Là, vous mettez en place la construction humaine ou ce sont des appréciations, encore une fois, théologiques et qu'on laisse entre grands théologiens.
Grande question.
Bien.
Grande question.
Enfin, encore une fois, en ces temps de l'Avent et à deux jours de la Nativité, Rachid Lazar, nous vous remercions vivement de venir parler de votre passion à vous, de la personne de Jésus. Vous avez dit que vous vous y intéressez depuis votre jeune âge.
Ah oui, parfaitement. Fasciné. J'ai été toujours fasciné par ce personnage.
Et Jésus est présent dans la tradition soufie. La mystique islamique s'en inspire. S'inspire de sa vie, de son apostolat, de sa prédication, de son ministère. Nous nous approchons du terme de l'émission. Merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de venir nous parler de Jésus. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Lydvine Caron. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.